Des rumeurs d'Eden Hazard à Montréal, les salaires dévoilés en MLS, une Ligue des champions UEFA à sens unique pour sa finale. Un gros menu pour vous aujourd'hui à Loin de s'en foutre avec Amy Walsh comme invitée. Olivier Brett avec vous en compagnie de Sydney Faux. Je parlais d'Amy Walsh qui sera notre invitée dans quelques minutes. Mais Sid, d'abord, on va commencer par bonjour. Ça va?
Très, très bien. Merci beaucoup, Olivier.
Ouais, j'ai comme pas le goût de traîner trop parce qu'on a tellement de choses intéressantes à couvrir aujourd'hui. À commencer par, comment qualifier ça? Un retour à la réalité pour une équipe qui était sur un nuage torontois après des victoires coup sur coup face au Toronto FC. Hier soir, on enregistre ce balado le jeudi matin. Hier soir, le CF Montréal qui a été bien battu 3-0 à Cincinnati.
Oui, match approximatif. Manque de concentration, manque de solutions, manque de rythme. À tous les étages, on a été vraiment en deçà de ce qu'on peut attendre. J'ose espérer que ce n'est pas la réalité du CF Montréal.
En même temps, tiens, j'en profite, ça me fait tellement plaisir quand je peux te couper la parole rapidement comme ça. Ça veut dire que là, on va en avoir en masse à dire. La première mi-temps face à Toronto samedi dernier, tout le monde l'a oublié, mais c'était pas bon. Je regardais le montage qui a été fait. Il y a toujours un 6 ou 7 minutes que la MLS package pour les faits saillants de toutes les rencontres de MLS. Tu sais combien, sur les 6 ou 7 minutes, tu sais combien de temps on a donné à la première mi-temps face à Toronto?
Non, je serais curieux.
6 secondes. C'est pas une blague, là. C'était vraiment juste « Bonjour, bienvenue à la rencontre. » Un long dégagement sur le coup d'envoi, puis on est passé au changement de la mi-temps. On a tendance à l'oublier. Parce que ce qu'on a vécu en deuxième mi-temps, puis après le match, a monopolisé l'attention.
Oui, tout à fait. Et puis en deuxième mi-temps, on avait réussi à faire les changements qui font la différence avec la Palainen et Rea. Et cette fois-ci, on n'a pas eu la main autant heureuse, malgré les trois changements qui ont été faits, dont George Campbell,
à la mi-temps.
Qui montre un petit peu à quel point ça peut aller vite dans le foot. Il était sur l'équipe de la semaine MLS, changé à la mi-temps
tellement
du match.
Vrai.
Donc une rencontre difficile. On savait que dans le calendrier, ce match-là était particulier, puisque Cincinnati est leader dans l'Est. Néanmoins, les raisons et le contenu m'a un peu dérangé. On a été battu sur des éléments que je pensais déjà un peu derrière le CF Montréal, notamment sur le fait de perdre aussi facilement les ballons avec une pression haute. Ça, il faut comprendre que les équipes vont aussi le mettre en œuvre si le CF Montréal est autant en difficulté. Et aussi, on a été un petit peu pris à son propre jeu. C'est deux équipes qui n'aiment pas avoir le ballon, mais Cincinnati a réussi à le donner au CF Montréal. Et la grosse particularité de cette saison, c'est qu'à chaque fois que CF Montréal domine la possession, le CF Montréal perd.
Le CF Montréal, tu parles d'une équipe qui veut pas vraiment le ballon. D'accord. Je pense que c'est une question de philosophie. C'est pas la fin du monde. En même temps, il faut que lorsque tu l'as, tu sois percutant. Il faut que pour le récupérer, tu sois percutant. C'est là où de te retrouver dernier, si je me trompe pas, 29 sur 29 pour les tacles gagnés, ça marche pas, là.
Non, du tout. Et puis, c'est vrai que CF Montréal a pêché. On a vu notamment un pressing assez désespéré de Mathieu Chouanière sur 40 mètres. Il courait tout seul auprès de quatre personnes qui s'échangeaient le ballon. Et cette frustration-là, incarnée par Mathieu, elle est caractéristique de l'ensemble du match. La passe de Campbell à Rea, une passe, encore une fois, compliquée, alors qu'il a eu peu de solutions. Donc, un match sans pour le CF Montréal, avec... des ajustements à faire. On a essayé de voir entre Waterman et Campbell est-ce que ça fonctionnait. Camacho au milieu de terrain, est-ce que ça fonctionnait. On a remis Duke dans l'alignement. Il y avait quand même des petits changements par rapport à la belle semaine torontoise. Néanmoins, c'était insuffisant face à un très bon Cincinnati.
Ce qui a attiré l'attention avant cette rencontre au TQL Stadium, c'est des rumeurs qui sont venues d'abord d'Europe, qui ont pas été commenté par Olivier Renard, qui quand même, lorsque Patrice Bernier lui a demandé dans notre avant-match mercredi soir, est-ce que ces rumeurs d'un intérêt potentiel pour Eden Hazard sont fondées? Est-ce que c'est le genre de joueur qui vous intéresserait? Olivier Renard a répondu, on commente pas les rumeurs, c'est jamais notre habitude. OK, ça c'est cohérent. Mais Olivier Renard, par la suite, a répondu, mais Patrice, tu sais comment ça fonctionne? Et j'ai rarement eu une réponse d'Olivier Renard qui m'a apporté plus de confusion que cette réponse-là. Première chose, est-ce que tu y crois à cet échange-là, on va dire, sur la possibilité d'Eden Hazard à Montréal? Et est-ce que c'est une bonne idée si ça se concrétise?
Alors, l'échange, oui. Mais je pense que, comme on dit, un gars s'essaye. Il n'y a rien qui me semble complètement hors caractère.
Surtout quand tu as un de ses meilleurs chums comme entraîneur adjoint. Salutations à Laurent Simon.
Exactement. Et que ton ancien coach était le coach d'Eden Hazard aussi. Ça compte dans l'équation avec la proximité francophone. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui font en sorte qu'une tentative, même informelle, oui. Maintenant, quand on y réfléchit vraiment, trop cher, trop fragile, trop peu motivé, c'est vraiment la fausse bonne idée d'Eden Hazard qui ne cadre pas du tout avec le projet en place pour le CF Montréal. Et c'est là où vraiment, moi, j'ai un gros pas de recul sur cette rumeur. Mais du côté d'Olivier Renard, ça
Mais est-ce
montre.
que tu penses, attends, ok, c'est super intéressant parce que là, il y a comme un paquet de dossiers là-dedans. Il y a, est-ce que c'est une bonne idée ou non? Est-ce qu'il y aurait pu y avoir une discussion, oui ou non? Après, il y a, est-ce qu'Olivier Renard, sachant, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, le nœud de cette analyse, à mon sens, c'est est-ce que ça cadre avec un projet qui est ultra cohérent? On peut être en désaccord, on peut vouloir dépenser plus, mais c'est ultra cohérent depuis qu'Olivier Renard est arrivé. Ça, ce serait la première fois. Victor Wanyama est peut-être l'autre anomalie, mais ça, au départ, c'est Thierry Henry qui voulait avoir Wanyama ici à Montréal. Il y a comme une déconnexion entre l'idée d'avoir un Eden Hazard, son profil, son historique des dernières années aussi, et ce que tu construis depuis le début. Est-ce que tu penses qu'Olivier Renard pourrait être intéressé à ça? Qu'est-ce qui expliquerait que tout d'un coup, tu as une exception aussi importante à ce qui est devenu la règle?
Ben c'est peut-être cette théorie de l'homme providentiel. Eden Hazard, techniquement, fait partie de ces peut-être 5 à 8 joueurs sur la planète qui cochent toutes les cases pour un marché montréalais.
Ah, si ça fonctionne, on s'entend qu'il explose la ligue, puis le stade est plein.
Oui, exactement. Et qu'il a une empreinte indélébile. On parle souvent parfois des Giroud, des Griezmann. Dans cette catégorie-là de joueurs francophones, qui sont sympathiques, qui sont performants, qui sont offensifs, qui ont un pedigree, qui s'expliquent, qui sont bien dans les médias. Bref, toutes les cases. Maintenant, Montréal n'a pas besoin de toutes les cases. C'est là où véritablement je pense que tu peux, pour 5 fois moins cher, aller chercher des joueurs qui performent sportivement et ce serait largement suffisant pour remplir ton stade. Parce que l'an dernier, on l'a vu, sans vedette, entre guillemets, on a rempli le stade.
Déjà cette année.
Et cette année, déjà, ça part très très bien. Donc c'est pour cela que ce pas de recul, je l'ai par rapport à Hazard. Et la différence que je fais avec Victor Wanyama, c'est que Victor Wanyama, il incarne le projet de jeu qu'on a mis en place. Aujourd'hui, on a moins besoin de Victor Wanyama, mais à l'époque, le changement, parce qu'on l'oublie un peu vite, Garde et Cabrera, quand Thierry Henry prend Victor Wanyama, c'est pour faire ce jeu, relance courte, conservation du ballon et changer la nature même de Montréal. Hazard rentre pas dans cette case-là non plus, donc c'est pour ça que je trouve que c'est très très loin de ce qu'on met en place, et encore plus quand on a dévoilé la liste des salaires de MLS où on a vu Montréal dernier à ce chapitre-là, on en rediscutera. Donc c'est pour moi c'est trop loin, même si ça me plairait, c'est un joueur extraordinaire quand il est en santé, mais non.
On va en parler des salaires dans quelques instants avec Amy Walsh, mais d'abord un petit commentaire sur la finale de la Ligue des Champions, l'Inter face à Manchester City qui a marché sur le Real Madrid. Est-ce qu'on a un match?
Non. Non, 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 parce que ce que j'ai vu hier, je suis encore sous le choc. J'ai jamais vu le Real se faire balader de cette manière. Il y avait des pics à 80% de possession du ballon. La seule chance de l'Inter, c'est que c'est pas à l'Etihad, parce qu'à l'Etihad, tout le monde prend des volées en ce moment. Il y a sur la même année, Bayern, Manchester United, genre comme Leipzig, non, Chelsea, Arsenal, ils ont tous perdu par 3 buts d'écart. C'est incroyable ce qui se passe en ce moment du côté de l'Etihad Stadium. Et c'est en Turquie, une chance pour l'Inter. L'Inter qui a une grosse défense, mais je vois un David contre Goliath, malheureusement.
Oui, ça veut dire que l'Inter va gagner ce match-là, puis on va ressortir la
Non,
cassette parce que deux
mais
joueurs vont avoir été expulsés en début de match pour Manchester City dans un match qui verra en vrille. Puis c'est pour
Écoute, j'ai quelques arguments pour l'Inter, mais ça va me prendre un petit peu de temps avant de les exposer.
Oui, c'est ça, quelques arguments sur un post-it, mais tu as un cartable plein pour Manchester City. Voilà la raison pour laquelle on parle de David contre Goliath. On va maintenant en profiter pour basculer vers notre collègue Amy Walsh pour une petite conversation sur le foot féminin, mais d'abord les finances du CF Montréal. Amy, d'abord, merci beaucoup d'être là avec nous.
Un grand plaisir. Content d'être là.
OK. Là, on va parler, Sid en a fait allusion il y a un instant, le budget, les salaires sont sortis. Je vais toujours me rappeler, Wilfred Nancy me disait il y a 3 ans, si je ne me trompe pas, il n'était pas encore coach du CF Montréal. En fait, ça ne s'appelait même pas le CF Montréal. Wilfred m'avait dit, lorsque je lui ai demandé, c'est quoi la vibe dans le vestiaire ou au club quand il y a la divulgation des salaires? Wilfried m'avait dit, Ben, on est sur une séquence de 3 victoires ou de 3 défaites? Parce que ma réponse n'est vraiment pas la même d'un côté ou de l'autre. Il y a un scénario où tout le monde vient cogner à la porte, puis un autre où tout le monde prend son trou parce que ça fonctionne, puis on va pas essayer de déstabiliser le statu quo. Maintenant, toi, personnellement, Amy, comme analyste ou peut-être comme supporter, quand tu regardes le fait que le CF Montréal a des résultats relativement intéressants, on va mettre le match d'hier de côté, avec ce qui est la plus petite masse salariale. Toronto a la plus grosse. Toronto qui a été battu 2 fois par Montréal au cours des 10 derniers jours. Est-ce que ton réflexe, c'est de dire « Wow, c'est extraordinaire ce qu'on est capable de faire. On doit être fier du fait qu'on dépense le moins, mais on est en milieu de peloton, par exemple. » Ou est-ce qu'au contraire, c'est frustrant parce que tu te dis « En dépensant plus, on peut peut-être rêver à la MLS Cup. »
Moi, j'ai toujours une approche plutôt positive. Alors, c'est le premier. Je pense qu'il y a une fierté qu'on peut prendre. Si on regarde le collectif, on investit non seulement dans les joueurs, mais on investit dans la philosophie du club, de qu'est-ce que Olivier Renard et Vasily Kremenzidis sont en train de faire. C'est sûr que si on y va à mi-chemin, si on serait capable de peut-être pas rajouter un Eden Hazard, mais quelqu'un, tu sais, moins de taille pour dire, ou un gros salaire, un grand joueur, puis quelqu'un qui pourrait venir injecter un petit peu de vie, comme un Wanyama, mais plus à l'attaque, peut-être à genre Kyoto ou dans, tu sais, le profil d'un Georgi Mihailovic, quelqu'un comme ça, pour rajouter à la philosophie, à le collectif, parce que même dans le budget, all budget team MLS qu'ils ont fait, il y a juste un mention sur le banc de Bryce Duke à 150 000. Mais si on regarde, moi, je serais intéressée de voir, de comparer toutes les 11 partants dans la Ligue ou dans la Conférence de l'Est pour voir comment le CF Montréal s'aligne là-dessus. Est-ce que c'est un effectif très performant si on compare les salaires, ou c'est encore à peu près milieu du table? Mais moi, je crois qu'il y a vraiment une fierté, pour revenir à ta question. Si on parle de développement des jeunes, les homegrown, tremplin vers l'Europe, je trouve que si on s'investit, on s'axe sur ça, il y a une très grande fierté que les partisans peuvent prendre dans qu'est-ce qui se passe avec leur club.
C'est vraiment intéressant, Amy, que tu parles de l'aspect jeunesse, parce que c'est pas seulement des joueurs formés au club, Sid, c'est des joueurs qui viennent d'ailleurs, mais c'est 18 joueurs de moins de 24 ans dans l'effectif d'Hernan Losada. On s'entend que même si tu te mets à dépenser davantage, que ce soit en transfert ou en salaire, le fait que tu aies des plus jeunes qui n'ont pas renégocié 2-3 fois leur contrat dans leur carrière, tu vas toujours moins dépenser que les autres.
Oui, tout à fait, puisque de facto, c'est des joueurs qui doivent prouver pour leur prochain contrat. Et puis, côté CF Montréal, parfois, le prochain contrat, c'est ailleurs qu'ils vont l'avoir. Donc, on comprend. Maintenant, moi, je m'interroge pour savoir si c'est là où on veut être véritablement du côté du CF Montréal, ou bien c'est un état de transition et on se dit qu'on serait confortable à investir un 1 ou 2 millions de plus. Mais cette précision-là, pour moi, elle est importante, parce que lorsqu'on va parler des résultats, est-ce qu'on va se réfugier derrière le fait qu'on est la dernière masse salariale pour justifier des mauvais résultats, ou on assume complètement cette position et on est capable véritablement de dire, bon, ben, si les choses vont mal, c'est pas parce qu'on dépense pas, c'est parce qu'on veut être comme ça.
Donc
c'est
là où publiquement ou en coulisses?
Ben, publiquement, pourquoi?
Non, parce qu'il y a une différence entre les deux. Là, c'est certain qu'Olivier Renard, là, moi, il n'y a jamais personne qui va me faire à croire que si tu lui donnes 5 millions de plus, il va dire, ben, tu sais quoi, je suis satisfait en ce moment.
Mais c'est pour ça que je pense que ce qui pourrait manquer un petit peu à cet exercice-là, et de toute façon, c'est d'abord l'association des joueurs qui dévoile ces salaires-là, mais du côté du staff et de l'état-major du CF Montréal, moi, j'aimerais un peu voir la vision. Parce que la vision, c'est de rester comme ça, et on vend, ou bien, non, on voulait d'abord assainir des finances, parce que lorsqu'on fait le même exercice il y a 3-4 ans avec l'équipe de Rémi Garde, là, on écarquillait les yeux. Est-ce qu'on a, maintenant qu'on a assaini les finances, on va réinvestir correctement, ou bien on est confortable comme ça?
Et Amy, juste pour conclure, avant de passer au dossier Rudy Camacho, conclure sur l'aspect financier, ce qui est intéressant au moins de voir. Je disais tout à l'heure que le projet est cohérent. On peut triper sur ce projet-là, ou on peut être un peu frustré parce qu'on ne dépense pas assez, mais l'avantage, c'est que dans le vestiaire, tu as des joueurs que tu regardes là, position par position, comment on est allé les chercher, ils en sont où dans leur carrière. Il n'y a pas de contrat où tu te dis, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, des Lucas Ontivero à l'époque, là, pendant que Samuel Piette faisait 80 000 piastres ou 90 000 piastres, lui en faisait 400 000. Je sais pas s'ils se sont recoupés, là. Je pense qu'un était parti, l'autre arrivait, mais tu comprends ce que je veux dire. Le fait qu'il n'y ait pas d'anomalie comme ça pour la qualité du vestiaire, c'est énorme parce que tu as beaucoup moins de frustration dans ce temps-là.
Oui, absolument. Aussi, si on parle du collectif, puis tout le monde doit être vraiment sur la même page. Et on l'a vu hier avec le résultat. Si on n'est pas prêt à se porter à les duels pour avoir vraiment un commitment en être travaillant, c'est vrai qu'on ne va pas avoir le résultat. Si on peut appliquer la même leçon si on regarde la masse salariale. Mais si on regarde en parlant de cohérence ou quelque chose qui est incongru, on regarde peut-être les salaires de pas nécessairement les Herrera puis les Lapalainen,
mais Hamdi.
Ouais, Hamdi et les Toy. Alors ça peut être, on mettre un petit peu de, tu sais, on peut être mal à l'aise un petit peu en regardant ça pour dire, si on regarde aux Canadiens, on a aussi Waterman, très mm-hmm. important pour cette équipe-là, et pas beaucoup d'argent. On regarde aussi les profils des joueurs, qui va gagner le plus d'argent dans la Ligue. Les gardiens de but, tu sais, à part les Sean Johnson, les gros noms, ils gagnent pas beaucoup d'argent. Alors, mais quand on avance sur le terrain, on parle plus de profil d'attaquant, mais là, on va aller plus, tu sais, vers nos DPs, vers les plus grands salaires dans la ligue. Alors, c'est ça. Sauf les petits, pas erreurs, mais là, on va regarder plus de remettre ça sur Kremenzidis et Renard. Peut-être les erreurs entre guillemets. C'est ça peut-être qui peut aller déstabiliser un vestiaire.
Oui, et je sais qu'on n'aime pas beaucoup entendre ça au club, mais je suis désolé, parce qu'on ne parle pas de perfection, Amy. On est d'accord là-dessus. Il va toujours y avoir des joueurs qui surperforment, d'autres qui sous-performent, mais l'idée, c'est de ne pas avoir quelqu'un que tu payes 4 millions et qui ne fait absolument rien pour toi, ou quelqu'un qui est frustré à 80-quelques millions ou 90 millions pour Jonathan Sirois. Mettons, si dans un an, c'est encore lui le numéro un puis il est encore à ce salaire-là, il va falloir niveler. Mais
ou quelqu'un à Maroc, quand il a vu le salaire de Johnson?
De Bjorn Jansson, mais il l'avait vu l'année d'avant avant de signer. C'était quoi le problème? C'était 1,3 million quand même, non?
Le problème, c'est le nombre de buts.
Ouais, mais ça, écoute, Bjorn Jansson a pogné la COVID puis il s'en est jamais remis. C'était un peu ça quand même qui est arrivé. Mais là où je voulais en venir, c'est l'écart entre ton ratio de succès pour des joueurs que tu es allé chercher en MLS versus les Mustapha Kiza, Sunusi Ibrahim, Ahmed Hamdi, Bjorn Jansson. Ça commence à en faire beaucoup d'un côté qui n'ont pas fonctionné et beaucoup à Alistair Johnston. Kamal Miller est parti, mais il a été super bon quand même. Ismaël Koné à l'interne, Aaron Herrera que tu viens d'aller chercher, Mason Toy, ça reste à voir. Donc ça, je trouve qu'il reste quand même un peu deux solitudes à ce niveau-là. Hier, ça a été une autre rencontre où on a commencé, Amy, avec Rudy Camacho, au milieu de terrain, on l'a fait revenir en défense. Son rôle puis son importance au succès de cette équipe-là, tu les vois comment?
Alors, parlant de Camacho, là, 2 ans, c'est-tu juste ça? Le temps passe tellement vite.
Ouais.
Mais il n'était pas prêt à signer avec Wilfred Nancy et ses autres coéquipiers. Finalement, il est revenu. Moi, je n'étais pas convaincue que c'était un joueur qu'il fallait garder au niveau de l'effectif ou au niveau comme du chef de notre du backline, le centre au milieu de ce trois défensif, le trio défensif au milieu. Mais cette année, je trouve le moment clé pour moi, c'était quand lui s'est prononcé volontairement devant les médias et il a admis que lui, sa performance personnelle n'était pas de taille. Alors il a pris responsabilité pour ses performances au-dessous de ses attentes personnelles, mais aussi de comment il rentrait dans la philosophie de l'OSADA. Il avait dit que des fois, il avait pris des tendances, des habitudes développées sous Nancy, et là, il n'avait pas encore fait la transition dans l'ère l'OSADA. Et depuis, pour moi, il a pris des pas vers l'avant. Il a comme amené toute la défensive avec lui parce que pour moi, avant l'année, en rentrant avec le Sada, pour moi qui était là, qu'on pouvait être comme quelque chose qui était déjà confirmé, c'était la défensive. Mais début de l'année, c'était pas là. Alors, il a vraiment tourné la page. Il a montré vraiment et démontré un leadership excellent. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va être ton corps arrière. C'est quelqu'un comme ta pierre angulaire de ton trio défensif. Alors, pour moi, de le mettre au milieu de terrain, on peut voir ses qualités, mais je pense que c'est Vincent Destouches qui avait parlé. Il fait pas son scanning comme un milieu de terrain traditionnel. C'est vraiment, c'est un gars défensif que tu mets au milieu quand tu en as besoin. Mais pour moi, pour l'équipe, pour avoir des résultats, il faut l'avoir à la défense. Et pour moi, Campbell, c'est pas la bonne décision. Et en mettant Campbell, on va vraiment qu'est-ce que Rudy Camacho il peut amener à l'équipe. Et pour moi, c'est son QI, non seulement défensif, mais son QI à l'attaque. Alors, il n'y a pas nécessairement cette vitesse que tu vas rajouter, mais il va briser les lignes de façon intelligente, soit avec les passes ou en dribble. C'est Carey ce qu'il va faire. Et c'est vraiment lui qui va... C'est l'architecte pour moi pour relancer l'attaque et vraiment un joueur primordial pour le CF.
Sid, je pense que tu voulais ajouter quelque chose, mais juste un petit commentaire par rapport à ça, parce que c'est un 180, là. Et on parle d'une discussion. Hernan Losada, avant la rencontre de mercredi soir à Cincinnati, on lui a demandé, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il un point tournant? Il a dit, on a eu des moments où on s'est assis face à face avec des cadres, des joueurs clés pour voir qu'est-ce qui allait pas, pour donner nos attentes. Et on a réussi à remettre tout le monde sur la même longueur d'onde. Parce que ce qu'Amy dit, c'est vrai. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'au début de l'année, c'est Rudy Camacho qui était le premier à dire « on prendrait n'importe quoi qui passe comme renfort ».
Oui, c'était pas le seul à le dire.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a clairement un moment où, avec l'échange, entre autres, tout le monde s'est fait dire « là, embarque ou débarque ». Oui. Il faut réussir à se mettre sur la même page.
Effectivement, et justement, je voulais revenir sur ce déclic du côté de Rudy Camacho. Sur est-ce que ce type de conversation, c'est quelque chose auquel tu as déjà été exposé dans ta carrière, ou à un moment donné, on doit vous prendre peut-être le leadership, et j'inclus des Victor Wanyama notamment, j'inclus aussi des Kamal Miller, parce que cette conversation-là, elle a dû mener dans plusieurs directions. Et dire à ces joueurs-là, bon maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que si vous n'êtes pas à votre niveau, notre saison, elle va nulle part. J'aimerais savoir, toi, comment ce type de conversation, est-ce que tu avais déjà été familier à ça et est-ce que, véritablement, elles servent à quelque chose?
Je ne peux pas vraiment... J'essaie d'y penser. Je n'ai pas un moment qui vient en tête, mais c'est sûr que si tu fais partie de ce groupe de leaders, de vétérans, puis c'est toi avec d'autres joueurs importants sur l'équipe, vous êtes le lien entre le staff qui veut instaurer la philosophie de jeu et la jeunesse sur l'équipe. Mais je trouve qu'on pouvait le voir dans le... Pour parler maintenant du CF, on pouvait voir dans le langage corporel sur le terrain. On le voyait certainement dans un Joel Waterman. Et on pouvait voir, il y avait, quand Camacho s'est prononcé publiquement, mais il y avait aussi, peu à peu, on pouvait voir qu'il y avait cet engagement, cette « buy-in », comme on dit en anglais, des vétérans. Puis ça, pour moi, avec les duels, avec le commitment, vraiment de vouloir, la volonté de vraiment d'être travaillant, de faire tout ça avant de rajouter la fondation de la philosophie de jeu. On pouvait vraiment voir ça et c'est vraiment, tu as besoin de ces vétérans-là. Pour Camacho aussi, c'est son lien avec Sirois. C'est la compréhension qu'il existe juste là et la relation entre ces deux. Que pas pour trop critiquer Campbell, parce que c'est sûr qu'il va avoir une adaptation avec sa rentrée dans le jeu, mais il va jamais être, pour moi, de taille avec Camacho dans cet aspect-là du jeu. Alors, pour revenir à ta question, Sid, je peux pas passer un moment particulier dans ma carrière, mais si tu n'as pas les vétérans avec toi comme entraîneur-chef, c'est je veux pas dire que ça c'est une saison perdue, mais ils vont être capables de vivre avec le résultat d'hier parce qu'ils sont sur le bon cheminement. Tout le monde parle la même langue présentement qu'on pouvait pas dire au début de la saison.
Ouais, tout le monde parle la même langue, à part Romel Kyoto, qui a commencé à faire des entrevues en anglais. On a fait du chemin, là, ça fait 4 ans.
Bonjour, Aïe.
Ça commence. Tu parles de saison perdue, Amy. Ça n'a certainement pas été le cas pour les Canadiennes qui jouent à Chelsea. Kalisha Buchanan, Jessie Fleming, championne de FA Cup dans un match à Wembley devant 90 000 personnes. Salle comble. Quand tu vois ça, Il y a encore d'énormes progrès à faire pour le sport féminin dans son ensemble. Je te dirais les femmes dans la société, dans leur ensemble aussi. Le soccer plus spécifiquement, mais c'est des moments spéciaux qui montrent quand même le chemin qui a été parcouru jusqu'ici.
Oui, certainement, puis je vais revenir au positif, mais j'espère être rendu un jour à ne pas parler des salles combles, ne pas parler de Wembley qui est tout rempli, ou les Wolfsburg contre Arsenal en demi-finale de la Ligue des champions, salles combles non plus, ça va juste être une habitude, puis on peut cesser d'en parler. Mais pour parler de nos Canadiennes, pour parler de Buchanan, bien, Jessie Fleming qui a eu le départ, qui joue joue son rôle à perfection, mais c'est le substitut, Pernilla Harder, qui vient puis change vraiment le match au complet. Puis c'est vraiment que là qu'on a vu Chelsea prendre beaucoup plus de change, la connexion avec Harder et Sam Kerr, qui éventuellement a eu le but gagnant que Sam Kerr a fait. Incroyable, un talent. Mais Kalisha Buchanan aussi, si on revient à l'équipe canadienne, le respect qu'ils n'ont pas, je pense, eu à date dans le WSL en tant qu'individu, c'est qu'on peut vraiment aller repêcher dans le talent du Canada. Je pense que là, on est en train de faire le chemin un petit peu, mais si on regarde l'effectif que Bev Priestman a présentement, c'est tellement, tellement de blessures. C'est comme le CF au début de saison. Mais là, on voit Kalisha Buchanan revenir. Elle était comme là, 2 semaines dans une botte, blessure au pied. Elle revient dans le jeu, elle fait un clearance, elle enlève le ballon du petit rectangle pour sauver, pour préserver la victoire. Alors vraiment un joueur qui a juste 5 minutes de jeu, mais vraiment un joueur clé pour Chelsea. Puis alors gagne un trophée, gagne la FA Cup, 3e de suite pour le Chelsea, mais aussi 3e de suite pour Jessie Fleming. Elle a 25 ans, je pense. Alors, c'est super. Puis juste pour dire aussi, Vanessa Gilles qui gagne la Coupe de France avec Lyon. La première trophée pour elle. Puis parle peut-être de renouveler son contrat parce qu'elle est en prêt de Angel City FC.
Ouais.
Et aussi, on va en parler peut-être plus tard, si on a assez de temps, mais Chloé Lacasse encore qui gagne la Ligue avec Benfica. Puis gagne pour la 3e fois la meilleure joueuse dans la Ligue des pays.
Ouais,
alors, c'est beaucoup de trophées pour nos Canadiennes, mais je trouve encore que c'est juste le début.
Pour la 3e et probablement dernière fois pour Chloé Lacasse, qui semble se diriger du côté d'Arsenal. Sid, je sais que tu as un autre sujet que tu veux aborder. Je veux juste dire, avant que tu passes au prochain sujet, Amy Walsh, Gabriel Gervais, Joey Saputo, ils ont tous la même mission. Parlez-moi plus de salle comble. On veut que ce soit une simple habitude, que ce soit toujours plein, puis qu'on soit jamais obligé de commenter là-dessus. Voilà. Je voulais juste dire qu'on les met tous dans le même bateau.
J'aurais beaucoup à dire sur ce sujet, mais je ferme la parenthèse. Ce sera pour une prochaine fois, Amy. Néanmoins, j'aimerais revenir un peu sur ces trophées. On sait que l'année de Coupe du Monde, je pense que Buchanan était champion avec Bruges, Stakeus champion avec Porto. Il y avait, je pense que c'était Hutchison ou Larin, un des deux, qui était champion en Turquie. On avait vraiment eu beaucoup de joueurs. Bon, Davis, quasi, on ne va même pas le mentionner, tellement Bayern, c'est une évidence. Mais le fait justement de remporter ces trophées, d'accumuler ces succès, comment ça peut se transposer sur l'équipe nationale?
Mais premièrement, je veux juste dire que Sid, on parlait juste des femmes. Puis là, il faut que tu ramènes les hommes dans la conversation, mais OK, c'est correct.
Je prends non, vraiment, c'est ton moment, vas-y.
Vraiment, l'attitude, tu sais, le mindset, la mentalité que tu peux que gagner des trophées, gagner, tu sais, le silverware, c'est quelque chose qui peut se transmettre sur le terrain pour ton équipe nationale, puis c'est quelque chose que tu peux ressentir dans le vestiaire. Alors, cette notoriété, on s'est dit ça en français, notoriety, c'est vraiment, c'est quelque chose comme je dis, c'est quelque chose de tangible, non seulement pour les partisans, mais aussi pour l'individuel. Alors ça, en parlant de respect, je l'ai mentionné tantôt, je trouve que tu sais, sur le plan mondial, dans le foot féminin, le Canada, 6e dans les rankings FIFA, pas beaucoup de respect, même comme championne olympique, il y a du chemin à faire là-dessus, mais aussi côté individuel, le respect que ces individuels ont. Mais en gagnant des trophées, on va y arriver éventuellement.
Attends, attends. Moi, est-ce qu'il faut que je comprenne que je dois regretter tous les moments où, quand le Canada, les hommes, tentaient de se qualifier pour la Coupe du Monde, j'ai cité les succès féminins en exemple? Est-ce que c'est ça qu'il faut que je comprenne? J'aurais jamais dû donner
non,
l'exemple.
c'est correct.
Désolé. OK, je voulais juste être clair. Vas-y.
La Coupe du Monde s'en vient cet été, du côté de l'Australie, de Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'on rentre dans une nouvelle ère avec d'autres pays qui sont inclus? On sait que la volonté de la FIFA d'augmenter le nombre d'équipes participantes.
Et d'endroits où tu tiens aussi le tournoi.
Exactement. Et surtout les endroits, parce qu'on voit avec les prochaines candidatures qu'il y a peut-être ce point de bascule, un peu comme la Corée du Sud et le Japon en 2002, pardon.
On est vraiment sur un knife's edge. C'est vraiment sur un moment dans l'histoire et dans le développement du foot féminin où on est prêt peut-être à prendre le pas, mais est-ce qu'on est prêt vraiment à faire l'expansion à 32 équipes? On va voir. Je pense qu'on va voir des résultats, c'est comme les 13-1 contre les mm-hmm. États-Unis et le Thaïlande en France. Alors, on va avoir plus de résultats comme ça sur le terrain, mais pour les yeux sur le foot féminin, je pense qu'en envoyant la Coupe du Monde en Australie, en Nouvelle-Zélande, ils vont être bien là-bas, ils vont être bien entourés, ils vont bien supporter. Mais là, on parle aussi de, tu sais, Infantino, on parle d'enlever le foot féminin du foot masculin, il essaie de développer ça, mais en parlant de broadcasting puis les chiffres que le monde sont prêts à donner, en échange pour avoir le broadcasting rights. On n'est peut-être pas encore là mm-hmm. et on peut transmettre ce même argument à la Coupe du Monde en 2027 pour les candidatures. Est-ce qu'on va avec les États-Unis et le Mexique? On vient en Amérique du Nord encore où c'est déjà établi, c'est déjà développé, l'intérêt est là. Ou en Europe, c'est l'autre candidature. Ou est-ce qu'on essaie de détirer une approche plus globale en allant peut-être en Afrique du Sud ou en Amérique du Sud avec le Brésil. C'est la tentative doit être là pour vraiment continuer le développement du jeu, le développement du foot féminin, mais est-ce qu'on est vraiment là encore? Je le sais pas. Alors, est-ce qu'on est mieux peut-être de rester en 2027 avec quelque chose qui est, entre guillemets, « tried and true ». T'sais, on mm-hmm. sait que l'intérêt est là, on sait que l'investissement est là, mais c'est vraiment, il faut se tenter d'aller plus loin. Mais là, on rentre aussi dans qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là avec l'approche dans le pays avec les droits humains. Est-ce que, mm-hmm. que la femme est vue en même idée que les hommes? Est-ce qu'on est rendu là? Alors, c'est vraiment de voir, est-ce que le timing est bon pour vraiment faire grandir le sport ou le foot féminin.
Ouais, ça montre toute la complexité de ces décisions-là et des répercussions que ça a aussi dans l'œil public. On a vu ce que ça donnait avec la Coupe du Monde au Qatar, j'allais dire l'été dernier. Non, c'était au mois de novembre, l'automne dernier. Amy Walsh, c'est toujours un énorme plaisir de jaser avec toi. Merci d'avoir pris le temps pour nous à Loin de S'en Foutre et merci surtout d'autoriser l'utilisation de l'exemple féminin quand on veut montrer que les gars ont encore du chemin à faire pour aller chercher des trophées ou des médailles sur une base régulière. Merci beaucoup.
Merci à toi, Ali. Merci, Céd.
Salut. On va maintenant passer à nos sujets chauds. On aime ça répondre aux questions. Gênez-vous pas pour nous les poser toute la semaine sur Twitter avec le hashtag LDSF. Il y a Paul Nau, dans un premier temps, Céd, qui dit « Comment expliquer que Hamdi n'est même pas capable d'avoir des minutes dans une séquence où on a besoin de faire de la rotation et qu'il ne peut même pas embarquer dans une défaite de 3-0? » Chouanière aurait mérité un break. Ça, c'est un éditorial de Paul, je présume. Mais Amy en a parlé tout à l'heure. C'est quoi? C'est 600 000 le salaire d'Ahmed Hamdi? C'est beaucoup. C'est terminé, Hamdi, non?
Alors, c'est pas des salaires, même si c'est écrit en tête que ce sont des salaires. C'est plutôt des charges budgétaires. Et donc,
mais c'est ce qui te coûte, là. Je veux dire que tu y donnes aux deux semaines ou que tu y ailles donner la première fois. C'est ce que ça occupe comme espace dans ton effectif 2023.
Eh bien, justement, c'est ce qui te coûte en tant que club, mais c'est pas ce que tu lui donnes nécessairement, puisqu'il y a des frais de transfert qui sont compris dans ce type de présentation. Et donc, pour beaucoup de joueurs qui viennent justement de l'étranger,
payer combien pour Hamdi?
peut-être trop cher, mais de la perspective du public, lorsque tu vois une liste de salaires, tu assumes que c'est ce qui va dans la poche de la personne, parce qu'on te dit que c'est un salaire. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Donc, pour certains joueurs, le chiffre est un peu gonflé parce qu'on prend en considération ses frais de transfert. Ceci étant dit, du côté.
Y es-tu doublé, le chiffre?
Non,
parce que même à 300 000, j'aurais la même conversation avec toi en ce moment-là.
Oui,
c'est ça mon point.
Non, mais la conversation, on va la voir. C'est plus une précision pour la perception de.
Oui, ouais, tu fais bien parce que c'est complexe en MLS.
Mais pour le coup, tout à fait. Pour Ahmed Hamdi, je pense qu'on est très en lien avec les commentaires qui ont été faits par l'OSADA. Oui, la rotation, mais il n'y aura rien de gratuit. Il y a des joueurs qui ne le méritent pas. Au-delà même d'Ahmed Hamdi, on peut mettre Matko Milevic dans la conversation qui n'était même pas sur la feuille de match. Et le coach.
Et l'OSADA a dit que c'était une décision personnelle. Ça, c'est particulier quand même.
C'est personnel dans le sens, c'est une décision technique. Donc, on refuse qu'il soit sur la feuille de match parce qu'on estime que ce qu'il montre à l'entraînement n'est pas suffisant parce que c'est forcément à l'entraînement qu'il est jugé.
Il vient toujours de revenir quand même, là, on va lui donner le temps, mais c'est surprenant sachant que c'était lui, ton gars, qui allait remplacer Mihailovic, même pas faire le banc. C'est ça la surprise.
Effectivement, et lorsqu'on voit aussi que Joshua Cuzera a eu des minutes, je pense que du côté d'Ahmed Hamdi et de Milevic, on doit comprendre le message. Et pour répondre un peu plus précisément à la question, oui, c'est terminé, je veux dire, sauf revirement...
Non, Hamdi s'en va, là.
Invraisemblable, c'est terminé pour Ahmed Hamdi.
Hugo nous demande à quand... question super intéressante qu'on n'a jamais eue, si je ne me trompe pas. À quand une assistante coach en MLS? Je présume qu'on essaie de ne pas mettre la charrue devant les bœufs. On parle d'assistante coach avant coach. Demain matin. Là. Je veux dire, c'est un truc qui peut arriver incessamment.
Oui, tout à fait. Je vois aucun obstacle à ça. Au contraire, je pense qu'il y a des clubs qui devraient être un peu plus proactifs. Surtout des clubs qui ont été pris dans certaines situations. Moi, je pense que du côté...
Portland.
Oui, moi, je pense que comme au plus vite, on devrait aller dans cette direction. Et non pas pour faire quelque chose d'une gimmick ou un token, tout simplement parce qu'il y a des femmes compétentes dans le soccer. Il y en a plein. Donc, demain matin, oui.
Michael Forcier, maintenant, quel club croyez-vous est le plus satisfait de sa saison? Le Barça, avec un titre en Liga, premier en 4 ans, avec un Xavi qui a été super intéressant d'ailleurs avec ses commentaires après. On lui a demandé, je ne sais pas si tu as vu passer, est-ce qu'il y a un lien à faire avec ton premier titre comme joueur en 99 et ton premier titre comme coach cette année? Sa réponse a été, avec pas de sourire, rien, là. On était game time, même si c'était après la célébration du titre, la confirmation du titre. Xavi a dit oui. Ça apaise le doute que j'ai en mes propres moyens. J'ai trouvé ça tellement Xavi, tellement Barça, des belles années, tellement Masia, des grosses années de la Masia. Bref, je tenais à faire la parenthèse. Donc la question, c'est Barça plus satisfait avec son titre et rien en Ligue des champions ou le Real dans le carré d'as et deuxième de la Liga?
Alors, Michael, je t'annonce que tu as mis le feu à mon groupe chat parce que j'ai posé la question pour un peu prendre le pouls.
J'aurais pensé que c'était évident. Ça.
Et bon, je pensais aussi que c'était évident.
C'est le Barça, on est d'accord?
On est d'accord. Bon. Ça n'est pas du tout.
Pour vrai?
On m'a rappelé, que la Super Coupe de cette année a été remportée face à Francfort et que ça compte dans la saison, ainsi que la Coupe d'Espagne. Et il y a eu argument sur argument et mon téléphone a vibré jusqu'au début de l'enregistrement. Donc, j'étais certain que la réponse était évidente côté barcelonais. Parce que à 14 points du champion en titre, c'est pas satisfaisant. 4-0 à l'Etihad, c'est très loin d'être satisfaisant. Et pour moi, le Real Madrid en veut plus. Néanmoins, les Madrilènes semblent dire que leur saison est meilleure que celle de Barcelone. Et j'ai pas envie que mon téléphone continue de vibrer.
On va laisser cela. Mais t'as notre réponse, Michael. C'est le Barça pour Sid et pour moi. Émile, maintenant, nous demande, le CF Montréal veut s'ancrer dans la communauté et développe beaucoup d'activités pour les joueuses via l'Académie. Amy en fait, entre autres, partie. En fait-il assez pour rejoindre le grand bassin de joueuses de soccer au Québec et les intéresser au club? C'est quoi la prochaine étape? Moi, je pense que la dernière portion de cette question-là est le nœud de la question féminine dans son ensemble au CF Montréal, parce que je trouve ça extraordinaire qu'on mette des programmes en place. Je trouve ça extraordinaire que ce soit des filles de la place, des filles qui ont énormément de succès comme Amy, qui a plus de 100 sélections, qui soient impliquées aussi. Mais pourquoi on fait tout ça? C'est là où j'ai de la difficulté à comprendre. À l'Académie, chez les gars, il n'y a pas d'investissement à la hauteur des ambitions de formation du CF Montréal vers la MLS. Tu n'as pas de MLS Next Pro, mais là, tu t'embarques dans un projet féminin avec toujours cette réticence à parler de soccer professionnel à Montréal, alors que tu as Project 8 en ce moment qui t'ouvre la porte. Tu n'es pas obligé de dire que ça va être demain matin, mais d'ici quelques années, et pourtant, il semble avoir aucune volonté d'avoir du soccer pro chez les femmes au CF Montréal. C'est là où moi, je me pose la question, à savoir, on est dans quel projet exactement?
Alors, est-ce qu'on en fait assez? Non. Je pense qu'on doit en faire beaucoup plus, mais il faut effectivement que là, on se positionne très clairement sur c'est quoi l'objectif final
à terme.
À terme.
Le haut de la pyramide.
Et je pense que du côté du club, même si on veut être prudent et pas se tirer une balle dans le pied, je crois que se positionner clairement sur une équipe professionnelle aujourd'hui, c'est la seule chose qui ferait du sens par rapport à tout ce qu'on est en train de mettre en place. Oui, on parle d'une académie féminine, mais ensuite, c'est quoi lorsque la fille a 18 ans, c'est quoi la suite? Son premier contrat pro, elle le signe avec quelle équipe? Donc, il y a quand même des questions qui se posent. Néanmoins, ça a été souligné à plusieurs reprises à l'émission et on va continuer à le dire. Il y a de nombreuses initiatives très, très pertinentes qui sont mises en place par le club. Et sur ça, on va jamais le regarder de côté. Mais j'assume l'idée que le club peut en faire encore beaucoup plus pour le foot féminin.
En fait, c'est que c'est sorti de nulle part, cette histoire-là. C'est Kevin Gilmore, là. Souviens-toi, de nulle part, qui nous avait sorti « Ouais, on a un projet de soccer féminin à l'Académie. » Wow. Puis là, c'est quoi? Deux ans plus tard, je me pose encore à peu près la même question. Pourquoi?
Pour être cohérent, je pense, avec les valeurs que le club veut mettre en place, je pense que le club se positionne comme le fleuron du soccer au Québec, et ça fait pas vraiment de sens d'en exclure 50% de la population. Donc maintenant, il y a un 30 ans d'avance pour le soccer professionnel du côté masculin. Donc comment on approche le côté féminin, ça c'est la grande question. Il y a aussi des expériences ratées, ça aussi il faut aussi être conscient. Il y a beaucoup de choses aussi qui se mettent en place aujourd'hui parce qu'on sait que ce soit les Comètes ou d'autres équipes, ça a été compliqué. Donc on veut bien agir. Néanmoins, moi je pense qu'on pourrait se projeter, se dire dans un horizon de 5 ans, voici l'objectif et on comprend que tout ce qui est mis en place aujourd'hui va dans ce sens-là et n'est pas nécessairement des occasions qui sont désarticulées.
En fait, moi, c'est plus l'incohérence entre investir dans le soccer féminin au CF Montréal, qui est tout à fait légitime, et les coupures budgétaires au fil des ans dans l'académie chez les garçons, alors que Gabriel Gervais nous dit sans cesse, et je le crois, que l'objectif est de former un maximum de joueurs, mais tu es la seule équipe des 29 en MLS à ne pas avoir de MLS Next Pro. C'est là où je me dis il y a quelque chose d'un peu particulier, mais comme tu le dis, éventuellement, peut-être que tout ça va reprendre un chemin qui est un peu plus clair sur c'est quoi l'objectif sur les 4, 5, tiens, peut-être 10 prochaines années. On termine avec une question du Dr Foot, Sid. Cette défaite du CF Montréal à Cincinnati, 3-0 hier au TQL Stadium, est-ce que c'est une erreur de parcours ou le retour à la réalité? Les victoires du CF Montréal étaient contre des clubs plus faibles, c'est la remarque du Dr Foot, mais surtout, principalement, à la maison.
Oui, tout à fait. Il y a un rééquilibrage par rapport à. Je pense que c'est ça le facteur clé. C'est
de domicile jouer, étranger.
C'est de domicile étranger. Et puis, je veux dire, DC United, c'est une frappe sur un coup d'envoi qui n'a pas rapport et t'as un autre résultat. Donc, le jouer à domicile fait une énorme différence.
T'es blanchi jusqu'à maintenant, là, 6 fois sur 7, 6 défaites en 7 déplacements cette saison à MLS. Les 6 fois, t'as été blanchi.
Et on va pas non plus enlever Sporting Kansas City de cette équation parce que historiquement c'est une place dans laquelle tu avais vraiment de la difficulté à l'emporter. Donc du côté du CF Montréal, je pense que non, retour à la réalité de perdre sur le terrain du premier de la conférence S qui avait 6 victoires de suite à domicile, c'est pas quelque chose qui est honteux.
Face à New York samedi, par contre, si tu vis la même chose, c'est une équipe qui est avant-dernière en ce moment, qui a 2 victoires seulement cette saison. Là, ce serait un retour à la réalité. Tu prends un 2-3-0 là-bas. Là, tu te dis, ouais, on a vraiment 2 visages, sur la route puis à la maison.
100% d'accord. Néanmoins, encore une fois, même pas, je mettrai une petite nuance, c'est dans le contenu, c'est dans l'expression collective. Tantôt, je parlais d'un match approximatif et avec beaucoup de ratés, et je pense que tu peux perdre avec un meilleur visage, et le visage qu'a montré le CF Montréal dans la première mi-temps, surtout, très en deçà de ce qu'on peut attendre.
Ça, c'était contre Toronto samedi dernier ou hier? Ou les deux?
Non. Mais Toronto n'a pas beaucoup produit non plus.
Mais tu sais, ça a été quoi ma conclusion du match contre Cincinnati? Toronto est vraiment mauvais.
Non, mais voilà, je suis d'accord.
Parce que Montréal a fait la même première mi-temps face à Toronto qu'ils ont fait à Cincinnati. Il y en a un, c'était 0-0, tu fais des changements, tu gagnes le match 2-0 à la maison. L'autre, c'était 2-0 à la mi-temps, puis finalement, tu pars 3-0.
Non, tout à fait d'accord, tout à fait d'accord avec toi.
Bon, c'était mon drop de mic parce que l'émission est finie. Ça fait ton affaire?
C'est beau.
Je vous remercie. Merci à tout le monde de nous avoir posé vos questions. Continuez de le faire sur Twitter avec le hashtag LDSF. Continuez de partager le contenu aussi sur le rds.ca/baladodiffusion. On est également disponible sur iHeartRadio. Olivier Brett, Sidney Faux qui vous disent à la semaine prochaine.